Je vous regarde. Vous savez ce que je vois? Je vois des gens anormaux. J'espère que ça vous encourage bien. Et vous êtes anormaux. Consolez-vous, je suis anormal aussi. Hein? Nous sommes tous anormaux, déformés, tordus. Et on sait pourquoi. Enfin, en quelque sorte, on sait pourquoi. On est déformé par le péché. On n'a jamais vu quelqu'un de normal de notre vie. On ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais vu quelqu'un de normal. On ne voit autour de nous que des gens qui sont pécheurs. Et ce qu'on appelle normal, c'est quelqu'un qui s'en sort moyennement bien avec ce problème. Mais quand j'essaie de réfléchir à ce qu'aurait été l'humanité s'il n'y avait pas eu de péché, ben j'y arrive pas bien. Parce que j'ai jamais connu ça. J'ai jamais vu un être humain normal. Nous sommes déformés par le péché. Et nous le savons. On est quand même entre prédicateurs de l'évangile ici. Si je dois vous apprendre que le problème c'est le péché, ben c'est qu'il y a un problème en plus. Hein. C'est à revoir ta qualification pour le message que tu annonces. Mais est-ce qu'on est toujours bien au clair sur ce qu'est le péché? Exactement ce qu'est le péché. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Oh, ça a commencé il y a peut-être 25 ans et ça a duré pas mal d'années. Et c'était la base, le point de départ de beaucoup de réflexions théologiques qui m'ont amené à revoir l'ensemble de mes conceptions spirituelles. Parce qu'il est trop facile de croire que le péché, ben c'est toutes les mauvaises choses que nous faisons. On est pécheur parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça, parce qu'on fait... Et c'est vrai qu'on fait ces choses. L'homme fait des mauvaises choses. C'est pour ça, parce qu'on fait des mauvaises choses, que Marc les met en prison pour que Gérard puisse aller les visiter. Enfin, pour les grosses choses. Mais c'est pas ça le péché. Ça, c'est une des multiples manifestations du péché, mais c'est pas sa nature profonde. Qu'est-ce que le fond du péché? Le fond du péché... c'est que nous sommes en position fondamentalement fausse par rapport à Dieu. Il y a une étude très intéressante qu'on n'a pas le temps de faire ici, d'autant plus que c'est une étude qui demande à réfléchir d'une façon très précise sur des sujets dont on n'a pas l'habitude. Notamment, pour ceux qui connaissent, il faut réfléchir sur l'épistémologie, ce qui n'est pas un sujet courant, mais un sujet fascinant pour autant. C'est l'étude de l'étude, l'étude de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Et par ces réflexions-là, on peut arriver à deux constatations très intéressantes et contradictoires. Enfin, apparemment, au sujet de l'être humain. D'une part, on arrive à constater que l'être humain n'est pas constitué de façon à pouvoir arriver à une certitude absolue. On ne peut pas. Nous ne sommes pas capables d'arriver à une certitude absolue. Parce que on peut se tromper. Même quand on est vraiment convaincu d'une chose, on peut se tromper. Je suis sûr d'avoir vu la chose. Ben non, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, il y en a qui sont spécialistes de nous faire voir des choses qu'on n'a pas vues. On appelle ça des prestidigitateurs. C'est tout un jeu, j'ai fait quelques petits trucs moi-même, c'est tout un jeu amusant de faire en sorte que les gens sont sûrs d'avoir vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et ben, ça arrive qu'on est sûr d'avoir vécu quelque chose et qu'en fait, c'est pas ça qu'on a vécu. Et puis dans nos raisonnements, on raisonne, et puis on ne peut pas arriver à être sûr qu'on ne se trompe pas dans nos raisonnements. On peut arriver à être vraiment convaincu de quelque chose, et de façon à pouvoir dire, oui, oh là là, C'est bien suffisamment clair pour que je puisse dire c'est vrai. Par exemple, moi je crois bien, sans aucun problème, je n'ai aucun doute là-dessus, que Jacques Chirac est le président de la France. Mais en fait, je n'en ai pas la preuve. Je ne sais même pas s'il existe, si on va être absolument sûr. Moi, je ne l'ai pas vérifié. J'ai vu à la télé, mais on peut mettre des choses à la télé, j'ai vu au journal, j'ai entendu à la radio, c'est qu'on peut dire un tas de choses sans que ce soit ça. Il y en a qui sont friands des théories de conspiration, où on dit, oui, il y a toute une machination pour faire croire à tout le monde que c'est pas ça. Eh ben, peut-être que c'est simplement toute une conspiration pour faire croire que c'est pas ça. Bien sûr, c'est vraiment peu probable. Et ça me suffit. Ça me suffit largement. Et ça vous suffit aussi. Aucun de nous ne va passer son temps à dire, ah, après tout, David a peut-être raison, je ne sais plus qui est le président de la France. Attends, non, on le sait. Mais ce n'est pas une certitude absolue pour autant. Ça, c'est une constatation au sujet de l'être humain. Et qui a beaucoup d'implications, mais on ne va pas explorer ça ici. Mais l'autre constatation, quand on examine le fonctionnement de l'être humain, c'est que nous ne sommes pas capables de réfléchir, de formuler une pensée ou de communiquer autrement qu'avec des certitudes. Chaque phrase que je dis est formulée comme une certitude. Même si je vous dis, je ne suis pas sûr que ce soit ça, je vous formule comme une certitude que je ne suis pas sûr d'être sûr de la chose. Mais je formule le sujet de la phrase que je ne suis pas sûr, je le formule forcément comme une certitude. Et vous pouvez essayer, ce n'est pas possible de penser autrement. Ça fait de l'être humain un drôle d'être. On a besoin de certitudes, on ne peut pas y arriver. Et la seule façon d'avoir des certitudes, ça encore, on ne peut pas faire la démonstration ici parce que c'est trop long, mais la seule façon d'avoir des certitudes absolues, c'est d'être omniscient. Il n'y a que l'omniscience qui permet la certitude. Ou le fait de pouvoir s'appuyer sans aucune réserve sur l'omniscience. Mais il faut que l'omniscience existe pour qu'il y ait des certitudes. Ce qui veut dire la chose suivante. Quand nous, en tant que chrétiens, nous affirmons que l'être humain est fait pour vivre sous la direction de Dieu, c'est inscrit même dans notre nature. On a besoin de dépendre de quelqu'un qui sait tout, parce que nous, on ne sait pas assez. Je constate de plus en plus le nombre de situations où j'ai eu telle difficulté, et si j'avais su ça, ben j'aurais pas eu cette difficulté. Et ça, vous pouvez les multiplier, hein. Si j'avais su, mais je ne le savais pas. C'est pas dans ma nature de pouvoir le savoir. Parce que je suis fait pour dépendre de l'omniscience. C'est-à-dire de m'appuyer sur la direction de quelqu'un qui est omniscient et donc qui peut me dire avec certitude, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Et le drame de l'être humain, ce qui fait qu'on est tous anormaux, c'est que, étant donné que c'est dans notre nature d'avoir besoin de nous appuyer sur l'omniscience, c'est qu'on ne le fait pas. C'est ça, le péché. Le refus que Dieu soit Dieu dans ma vie. Notez bien que je n'ai pas dit le refus de Dieu dans ma vie. Le refus de Dieu peut prendre cette forme-là. Que je refuse Dieu dans ma vie. Mais le refus de Dieu peut aussi prendre la forme de bien vouloir Dieu dans ma vie. Oh, mais moi, je suis content d'avoir Dieu dans ma vie. Quand j'ai une difficulté, je prie et il m'arrange ça. Oh, ça, c'est formidable, ça. Hein? Combien je l'apprécie. Et puis, dès que c'est arrangé, ben, je le range gentiment dans son coin. Je dis, d'accord, tu restes là, tu bouges pas. Et puis, je te sonnerai la prochaine fois que j'en ai besoin. Merci beaucoup. D'accord. Moi, je suis content d'avoir Dieu dans ma vie. Ça passe, même chez l'être humain pécheur. Mais que Dieu soit Dieu dans ma vie. Que Dieu ait la place de Dieu dans ma vie. Ah ben non, c'est ça le péché. Et Alain nous a dit quelque chose de très intéressant ce matin. parce que ça fait partie de mes réflexions, il a mis en avant le problème de la confiance dans la bonté de Dieu. Or, je suis arrivé à la conclusion, il y a à peu près une vingtaine d'années, en travaillant la chose, et plus je travaille la chose, plus je suis persuadé de cela, que la motivation fondamentale du péché, c'est des doutes au sujet de la bonté de Dieu. Et si on analyse le texte de Genèse 3, on découvre que ce que Satan est en train de faire, c'est de semer la doute sur la bonté de Dieu. Ce qui fait que nous sommes nés dans ce monde, on n'est même pas choisi, hein? On est né comme ça, avec une profonde méfiance de Dieu inscrite dans notre être. C'est pas simplement que, ah ben moi j'ai pas grandi dans la religion, ou moi j'ai grandi dedans et justement j'ai pas aimé les hypocrites qui y étaient. C'est pas ça le vrai problème. Tout ça, ce sont des prétextes qu'on saisit très facilement, parce que c'est dans notre nature de nous méfier de Dieu. Et la raison pour laquelle on s'en méfie, c'est parce qu'on n'est pas fondamentalement convaincu de sa bonté. Parce que si j'étais réellement convaincu que tout ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, ben j'accepterais ça, parce que moi je veux bien ce qui est de mieux pour moi. Hein. Là, je ne me cherche pas de misère. Hein. Ça va de soi. Hein. Ce qui veut dire la chose suivante. Ce dont l'être humain, et là je parle de l'être humain aussi bien inconverti que converti, hein. Ce dont l'être humain a le plus besoin, c'est d'apprendre davantage la bonté de Dieu. On ne peut pas arriver au point où on dit, je te donne ma vie, je mets ma vie entre tes mains. Moi qui étais en fuite, en rébellion contre toi, je fais demi-tour, je reviens à toi, je confesse mon péché, je me repens de cet esprit d'indépendance et je me soumets à toi. On ne peut pas en arriver là sans arriver à avoir une confiance dans la bonté de Dieu. Quel rapport entre tout ça et notre sujet? Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à notre sujet. Hein. Le problème est le suivant. Comment est-ce que l'homme pécheur, c'est-à-dire l'homme qui part du principe que Dieu n'est pas bon, l'homme pour lequel c'est un réflexe de se méfier de la bonté de Dieu, comment est-ce qu'une telle personne, comment est-ce qu'un tel être peut arriver à dire, je fais confiance, je te donne ma vie et je marche avec toi? Bien sûr, on le fait par l'œuvre du Saint-Esprit et tout ça, on ne le comprend pas. D'accord, entièrement. Mais ce n'est pas une réponse totale, parce que s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que l'œuvre de Dieu là-dedans, ce n'est pas la peine que moi je cherche quoi que ce soit. Donc Dieu veut quand même qu'il y ait quelque chose où je puisse suivre le mouvement. Or, dans son indépendance de Dieu, l'homme est en train de dire, je peux me passer de toi, je peux gérer ma vie sans toi, au moins aussi bien qu'en te laissant diriger ma vie. Si, c'est pas mieux. Hein. D'ailleurs, le plus souvent, c'est, de toute façon, tu m'embêtes avec tes interdits, si toi tu n'es pas là, je m'en sors encore mieux. Je veux être indépendant de Dieu parce que je suis fondamentalement persuadé que j'arrive à gérer ma vie mieux sans Dieu qu'avec Dieu. On peut dire qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui croit savoir mieux que Dieu ce qu'il faut. Alors Dieu crée la race humaine. Et la race humaine se rébelle contre lui. Pas besoin de toi, merci, on s'en va. Si on a besoin, on te le dira. On passera à te dire bonjour de temps en temps. Mais enfin, chacun de son côté. On ne t'embête pas, tu ne nous embêtes pas. Ça va très bien comme ça. Quelle est la réaction de Dieu dans tout cela? La réaction de Dieu dans tout cela, c'est de continuer de nous aimer d'un amour profond, infini même, et inconditionnel. Et avec cet amour, il dit, vous avez besoin de quelque chose, et vous ne voulez plus reconnaître ce besoin. Vous êtes même profondément touché par la chose. Le problème de péché est plus grave en nous qu'on ne le pense. Et ça, ça a été dit plusieurs fois. Et beaucoup l'ont constaté. Logiquement, ça fait plus de 30 ans que je suis au Seigneur, logiquement, il faudrait s'attendre à ce que je sois un petit peu plus saint aujourd'hui que lors de ma conversion. Mais la réalité est que je suis beaucoup plus conscient de mon péché aujourd'hui que quand je me suis converti. Je suis en train de lire en ce moment un livre extraordinaire de méditations journalières de C.S. Lewis. Alors, on commence à parler de lui maintenant avec la sortie du film Narnia, mais il n'a pas écrit que ça. Hein. Vraiment, il a des réflexions qui vont loin. Hein. Et dans une des réflexions, il a dit des choses que... Je dis après, ben oui, c'était évident. Ben oui. Mais ça m'a vraiment fait tilt. Il a dit... Personne qui mérite d'être racheté n'aurait besoin d'être racheté. Christ est mort pour l'homme précisément parce que l'homme ne mérite pas qu'on meure pour lui. Alors qu'il y a quelque chose en nous qui veut croire que, après tout, il y a quelque chose de bien en nous et que c'est pour ça que Christ est mort pour nous, parce qu'il y a quand même la valeur là, on ne veut pas la perdre. Et Christ est mort pour nous justement parce qu'on ne méritait pas qu'il meure pour nous. C'est que le problème est grave, il est profond. On n'est pas disposé à écouter la voix de Dieu. Et pourtant, de par notre nature, on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. On a besoin de dépendre de l'omniscience, de l'omnipotence, de celui qui est parfait dans tous les sens. On a besoin de cela et on ne veut pas le reconnaître. Et on n'est pas disposé à écouter la voix de Dieu qui nous dit « Tu as besoin de revenir à moi et tu peux le faire ». Vous savez, la plus grande raison pour laquelle les gens ne se convertissent pas, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas l'Évangile. C'est vrai que beaucoup ne le savent pas. Mais même s'ils le savent, ça ne les intéresse pas. Ça sert à rien de savoir que Jésus est le chemin pour revenir à Dieu quand on n'a pas envie de revenir à Dieu. Et on n'a pas envie de revenir à Dieu parce que qu'est-ce qu'il vient nous faire celui-là? On se méfie de lui, on se méfie de sa façon de gérer la vie, on doute de sa bonté. Et on n'est pas disposé à écouter sa voix. Or, qu'est-ce que Dieu peut faire pour l'être humain? Qu'on écoutera malgré notre péché et qui aidera au moins quelques-uns à revenir à lui. Avait été quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui est lié à la souffrance, mais qui n'est pas simplement le fait de nous faire souffrir. L'approche chrétienne de la souffrance n'est pas celle qu'on trouve dans d'autres structures de pensée. Dans l'islam, par exemple, la souffrance, ben c'est fatal, quoi. C'était écrit. Puis c'est tout. Dieu l'a voulu. C'était écrit. Puis, faut pas s'y opposer, hein. C'était écrit. Parce que, pour des raisons inscrutables, ben, Dieu le veut ainsi, donc il le veut ainsi. Puis c'est tout. Dans la pensée orientale, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est une histoire de karma, c'est-à-dire c'est ce qu'on mérite pour ce qu'on a fait. Si tu souffres, ben c'est à cause de tout le mal que tu as fait. Attends, moi j'ai pas fait beaucoup de mal, enfin je suis pas parfait, mais enfin quand même pas embêté grand monde. Ah oui, mais tu l'as fait dans une vie antérieure. Ah, des vies antérieures, ben j'y crois, je me rappelle plus. Ben, c'est, tu ne peux pas t'en rappeler, mais c'est qu'il y a eu ça. Et donc, tu es en train de subir ce que tu mérites à cause du mal que tu as fait. C'est ça le principe du karma. Et qui peut infiltrer la pensée chrétienne, même si les vies antérieures, on n'y croit pas. Mais on peut appliquer ça dans la vie actuelle. Tu vis une difficulté, c'est que tu l'as mérité. Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Lisez le livre de Job, hein? Vous connaissez ça. De toute façon, c'est simple. Si tu vis une épreuve, tôt ou tard, il y aura un cher frère ou une chère sœur qui aura vraiment à cœur de t'expliquer la vérité et qui te le dira. D'une façon ou d'une autre, mais ça reviendra à ça. Hein. Si tu vis ça, c'est à cause de quelque chose que tu as fait. Je me rappelle encore de quelque chose que Roy Sion a dit. Je me rappelle beaucoup de choses qu'il a dit. Mais il nous a dit, entre autres choses, si tu crois que l'épreuve que tu vis est la punition de Dieu pour ton péché, c'est que tu sous-estimes totalement la punition que mérite le péché. Ah, ça m'est resté, hein. Ça fait 20 ans, ça m'est resté, parce que c'est vrai, ça. Ce que Dieu nous permet de vivre, même quand c'est dur, ce n'est pas pour punir nos péchés, c'est pas du karma chrétien, quoi. Il y a une autre raison pour cela. Pour le monde inconverti, le monde qui ne veut rien savoir de Dieu, le mal, c'est simple. La philosophie du mal, c'est que c'est le seul mal qui existe. Le bien et le mal, dans le sens moral, ça n'existe pas. Chacun peut faire ce qu'il veut, hein. Mais la souffrance est forcément un mal. Souffrir, c'est mauvais. Donc, il faudrait éliminer ça. Ce qui est intéressant, c'est que le bien et le mal, dans le sens moral, n'existent pas. Je peux faire tout ce que je veux. Ce qui sous-entend que je peux faire quelque chose, même si ça fait souffrir quelqu'un d'autre, et que ce n'est pas mauvais. Mais pour lui, c'est mauvais de souffrir. Il y a des incohérences, mais c'est comme ça. Mais un chrétien ne peut pas raisonner de ces façons-là. La souffrance n'est pas la récompense de ce que tu as mal fait. Tu as dit un gros mot là. Donc, il va tomber quelque chose sur la tête. Ah, crotte. Ah, je viens de me faire piquer par une guêpe. Ah oui, c'est parce que ça dit crotte. Ah, bon, je ne le dirai plus. Zut alors. Ah, d'accord, bon. Je... Ce n'est pas non plus quelque chose d'inéluctible. Parce que la différence de cette pensée islamique, c'est écrit. On constate tout au long de la Bible, on le constate dans la vie de Jésus, on le constate dans la mission qu'il a donnée à ses disciples. Dieu intervient pour soulager la souffrance. Ça vous semble pas un petit peu contradictoire tout ça? Dieu envoie l'épreuve et Dieu intervient pour soulager l'épreuve. Pourquoi? Parce que les deux sont nécessaires pour que l'être humain pécheur arrive à comprendre qu'il a besoin de Dieu. Et pour même l'homme chrétien, pour qu'il progresse dans sa dépendance de Dieu. Si tout va bien, admettons, bon, vous avez tous entendu les gens qui disent « Si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a de la souffrance dans le monde ?» Sous-entendu, si Dieu est là, un Dieu qui en vaut la peine, c'est un Dieu qui fait qu'il n'y a aucun pépin qui m'arrive. D'accord? Admettons que ce soit le cas. Est-ce que je reviendrai à Dieu? Non. Merci de m'arranger la vie, mais moi je continue comme ça. Et ça va très bien, hein. La preuve est faite qu'en fait, ça va très bien d'être indépendant de toi. J'ai pas besoin de toi. Pourtant, ça ne pourrait arriver que si Dieu est constamment en train de rattraper tout le mal que moi je fais par mon péché. Puisque j'ai besoin de dépendre de lui. Et sans cette dépendance, je crée forcément des problèmes pour moi et pour d'autres. Donc, pour que je vive sans pépin, il faudrait quand même que Dieu soit constamment en train de rattraper la chose derrière. Et si moi, je ne voyais pas tout cela, je dirais, mais je n'ai pas besoin de Dieu. J'en aurais besoin. Le besoin serait tout autant. Mais je n'en serais pas conscient. Mais en même temps, si Dieu ne soulageait pas la souffrance, je n'aurais aucune raison de croire que ça vaut la peine de se tourner à lui. Où est la bonté de Dieu s'il n'est pas capable de m'aider? Et c'est intéressant que le Dieu qui permet, on pourrait dire le Dieu qui veut, au moins dans le contexte du péché, le Dieu qui veut qu'il y ait de la souffrance sur la terre, veut aussi manifester sa bonté en intervenant pour nous aider. Jésus n'est pas venu pour enlever toutes les souffrances de la terre sur le plan immédiat. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez constaté dans les évangiles, lui ne partait jamais à la recherche de malades pour dire « Tiens, je vais aller faire une campagne de guérison là-bas pour que je puisse guérir tout le monde. » Ce n'était pas son but. Et pourtant, chaque fois qu'on lui apportait des malades, ben, il les guérissait. Sa compassion est telle que on a l'impression que c'est sa faiblesse quelque part. Il ne peut pas voir quelqu'un qui souffre sans dire « Je vais aider. » Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Et il nous envoie dans le monde faire autant. Aimez-vous les uns les autres. C'est par votre amour les uns pour les autres qu'on va voir que vous êtes mes disciples. On n'est pas appelé à dire, ben, il faut qu'il y ait de la souffrance dans le monde pour que les gens comprennent leurs besoins de Dieu, donc surtout en tant que chrétien, on ne va pas aider les autres. Au contraire, on est appelé à aller soulager, aider, intervenir, démontrer l'amour de Dieu. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si l'amour de Dieu demeure en nous, mais si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est parfait en nous. Autrement dit, les gens, ils ne voient pas Dieu. Or, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir la démonstration de l'amour de Dieu en nous. C'est ça une conception chrétienne de la souffrance. Il faut que ça existe pour qu'on comprenne notre besoin de Dieu. Et il faut en même temps comprendre que Dieu veut nous aider. Il ne veut pas nous faire souffrir juste pour nous faire souffrir. Vous avez fait des choses, alors je vais vous faire souffrir parce que... Ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Et les souffrances qu'il nous permet de vivre ne sont pas des punitions pour ce qu'on fait. C'est les conséquences d'une façon générale, du choix général de l'homme de pécher. Mais ce n'est pas lié directement à mes choix. Je vis dans un monde déchu. Je vis donc dans un monde de souffrance, et parce que je fais partie de ce monde de souffrance, quand il y a une souffrance, ben j'en fais partie. Il y a une épidémie, ben les chrétiens l'attrapent aussi. Il y a une famine, ben les chrétiens ont faim aussi, et les chrétiens meurent aussi. Il y a une catastrophe naturelle, ben les chrétiens sont touchés aussi. Ça, c'est pas des conséquences directes du péché, c'est que c'est là. Et puis, il y a d'autres souffrances qui sont des conséquences directes du péché. Combien de souffrances on crée pour soi-même et pour d'autres par nos péchés. Et parfois, dans sa grâce, Dieu nous délivre de ces conséquences, ou il les adoucit, mais pas toujours. Parce que parfois, on a besoin de comprendre les conséquences de notre péché. Mais que dire de toutes les épreuves qui ne sont pas les résultats d'un mauvais choix? Parce qu'il y en a plein. Parce que ça fait partie du fait d'être dans ce monde. La souffrance existe. Et ça nous fait pleurer, la souffrance. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il pleure. Il est mis face à la souffrance. Ça le touche. La souffrance, donc, d'une façon générale, a comme but de nous aider à constater notre besoin de Dieu, à remettre en cause notre refus de lui, et à nous aider à découvrir davantage qui il est. D'accord? Mais moi, je me suis converti. Moi, je suis convaincu de la bonté de Dieu. Je la crois, je la prêche, ça va, hein? Oh, Seigneur, s'il te plaît, tu peux arrêter maintenant? J'ai appris la leçon, merci. Et puis, continue. Pourquoi? La souffrance, l'épreuve, dans la vie du chrétien et même dans la vie du serviteur de Dieu, continue pour plusieurs raisons, dont la principale est simplement le fait que même si nous sommes au Seigneur, les problèmes de base du péché ne sont pas encore réglés. Un jour ce le sera. Combien ça me touche de constater dans la parole des versets qui nous décrivent ce que ce sera un jour. Colossiens chapitre 1, versets 21-22 par exemple, qui nous montre passé, présent et futur. Nous qui étions étrangers et ennemis par notre mauvaise façon de penser, nous sommes, ça c'est le présent, réconciliés avec Dieu, futur, pour nous faire paraître devant lui. Attention, ce n'est pas apparaître devant lui. C'est paraître, être convoqué dans sa présence. C'est bien le sens du mot dans l'original. Pour que nous puissions être apparaître dans sa présence, venir devant lui, pour nous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. C'est énorme, ça. Jude 1, 24. À celui qui est capable de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Combien de textes qui nous montrent qu'un jour, le problème sera réglé. Ça, c'est formidable. Ça, c'est notre espérance. Mais en attendant, on n'y est pas encore. Et ça me fait mal de l'avouer, parce que j'aime Dieu. Je veux marcher avec Dieu, je suis honnête. Et pourtant, je constate que dans mon cœur, il reste une méfiance de Dieu. Quelque part, je ne suis pas encore suffisamment convaincu de la bonté du Dieu que j'aime pourtant profondément. Et Dieu m'aide à découvrir davantage. Parce que dans la souffrance, on apprend des choses qu'on n'apprendrait pas autrement. On apprend, par exemple, la dépendance de Dieu. Alain nous a dit ce matin que ce terme, gérer l'épreuve, qui n'est pas sûr qu'on arrive à gérer l'épreuve. Moi, j'irai même plus loin. Je dirais, tant qu'on arrive à gérer une situation, c'est pas encore une épreuve. C'est peut-être un embêtement, mais ça, je vais l'arranger. Je vais arranger ça, hein. Mais dépendant de Dieu, c'est plus que ça. C'est dire, j'accepte d'être dans une situation que je ne gère plus. Et tu fais de moi ce que tu veux, même si ça ne m'arrange pas, et j'accepte ça. Je vais vous dire, ça c'est la description normale de ce que devrait être l'engagement spirituel de chaque être humain. Mais je vais vous dire, c'est pas comme ça que je raisonne. Je n'aime pas être dans ces situations inconfortables dont on a parlé ce matin, où on est suspendu entre ciel et terre et on ne sait plus où on en est et... J'aime pas ça. J'aime les situations que je gère. Pourquoi? Parce que j'aime pas être dépendant de Dieu. Parce que quelque part, malgré tout, et je suis désolé de le constater, mais quelque part, mon cœur me dit, débrouille-toi toi-même, tu t'en sortiras mieux. Parce que si tu laisses la chose entre les mains de Dieu, tu ne sais jamais ce qu'il va faire, lui. Ouh là là. Dans l'épreuve, j'apprends la dépendance de Dieu parce qu'il me met justement dans des situations que je n'aurais jamais choisies, hein, mais des situations que je ne gère plus. Ça, je ne peux pas m'en sortir. Et j'aime pas ça. Je suis un gars que certains me connaissent depuis longtemps. Vous savez que j'aime bien gérer les choses, hein. Prendre la chose en main, organiser, puis il y a une difficulté, on va se débrouiller, ça va, hein. Et d'une façon générale, je m'adapte à des situations, il y a des imprévus, d'accord, on s'y adapte, je gère encore la chose, hein. Et quand je me retrouve dans une situation que je ne gère plus, c'est mal. Mais mal. Je me suis retrouvé il y a quelques mois dans une situation que je ne gérais plus. Et j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, je t'ai connu à travers tes écrits. Par la suite, j'ai pu te connaître personnellement. J'ai découvert quelqu'un. Et là, je vois autre chose. Je lui ai dit, c'est vrai. Je lui ai dit, mais c'est aussi une partie de moi. Eh bien, peut-être que c'est une partie de toi qui ne devait pas y être. Sous-entendu, toi, je t'ai toujours vu comme le gars capable de tout gérer. Tu n'as pas le droit à cette faiblesse d'être dans une situation que tu ne gères plus. Et moi, justement, j'ai besoin de ça. Oh, j'aime pas, hein, je ne le cherche pas. Hein. Mais le Seigneur me fait cadeau de ces choses dont j'ai besoin, mais que je ne veux pas, avec une régularité déconcertante. L'épreuve m'apprend la dépendance de Dieu. Alors que je ne suis pas naturellement disposé à vouloir me mettre dans des situations où je dépends de Dieu. Sortir de la barque et marcher sur l'eau, une situation que humainement, moi, je ne gère pas. Mais le Seigneur m'appelle en disant, viens, alors j'y vais. Ben, j'aime pas ça. J'aime bien rester ici, je gère ça très bien, tac, 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 tac. Puis j'ai tout prévu, s'il y a jamais ça, on fera ça, puis il y a ça, on fera ça. Apprendre la dépendance de Dieu, ça ne me va pas. Et pourtant, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Et autre chose, et là encore, comme on a dit, le partage d'Alain et mon partage, ça va forcément se recouper par moments, c'est normal. Il faut espérer qu'on n'est pas trop en train de dire des choses contraires. Et là, ça recoupe encore quelque chose qu'il a dit. Dans l'épreuve que je ne gère plus, je découvre des choses en moi que je ne connaissais pas. Vous savez quoi? Je suis le modèle même de la foi. Tant que tout va très bien. Quand j'ai tout l'argent qu'il me faut, quand le ministère réussit, la famille ça va très bien, tout le monde est content de moi, enfin, tout va comme il faut, c'est le modèle de la foi. Oh, j'ai une confiance parfaite en Dieu, Dieu est bon, aucun doute là-dessus. Vous aussi, c'est facile d'être des modèles dans ces circonstances-là. Ça ne veut pas dire que tout est réglé dans le fond de mon cœur. Mais je le crois. Et puis Dieu intervient pour me montrer où j'en suis réellement. Pour me dire, tu n'as pas encore appris autant que tu ne penses. Un autre principe que j'utilise très souvent, que certains vont rigoler parce qu'ils l'ont déjà entendu tant de fois, je l'ai appris il y a des années de cela, c'est pas moi qui l'ai inventé, un principe aussi profond, moi je n'arriverai pas à le formuler, mais quelque chose d'extraordinaire. Quand on renverse un bocal, ce qui en sort, c'est ce qui était dedans. Ça peut être profond, c'est profond, hein. Attends, la palisse ne dirait pas mieux. Quand on renverse un bocal, ce qui en sort, ce qui était dedans. Vous êtes d'accord? Ben évidemment. Sauf quand il s'agit de nous. Je suis renversé dans l'épreuve, et ce qui en sort, attends, ce n'était pas dedans ça, hein, ça c'est à cause de l'autre. Il m'a fait ça, donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Ah ben non. Lui m'a renversé. Il est responsable de m'avoir renversé, je ne discute pas. Hein. Ce qu'il a fait dans son péché, etc., il est responsable de ça. Mais ce n'est pas lui qui a produit ma réaction. Le bocal était renversé, et ce qui était dedans, ce que j'ignorais peut-être, est ressorti. Combien de fois dans l'épreuve, et il ne faut pas forcément, Alain nous parle d'une épreuve extraordinaire, et c'est bien d'entendre le témoignage de l'œuvre que Dieu fait dans une situation pareille, mais heureusement qu'on n'a pas toujours besoin de ça. Hein. Même dans les petites choses. Peut-être que c'est parce que j'ai encore plus tordu, mais il ne me faut pas un truc aussi grand en moi pour révéler que le fond de mon cœur n'est pas ce que je croyais. Un petit embêtement, et puis je ne suis pas fier de moi. Hein. Et puis le pire, c'est que parfois, il y en a qui le voient. Hein. Et puis moi, qui voulais impressionner tout le monde, que je suis très spirituel, que je suis toujours un modèle, que tout va bien et tout cela, ben ils vont découvrir que c'est pas ça. Puis ça aussi, ben, ça me gêne. Parce que j'aime bien qu'on m'admire, hein. Et quand on dit, ah, David, ah, c'est un exemple. Hein? Et je pense que je ne suis peut-être pas le seul à avoir ce principe-là. Hein? C'est un peu le propre du serviteur de Dieu. Hein? Soyez des modèles, donc on va être des modèles. C'est-à-dire, on va être des modèles en espérant que personne ne remarque qu'on n'est pas toujours des modèles. Hein? Et quand on suis renversé, et qu'on me voit dans la difficulté, et on dit, quoi? Toi, serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile et tout, et tu as eu cette réaction-là, tu baisses dans mon estime. Bah, peut-être c'est le prix à payer. Hein. Mais j'ai besoin de ça. Et puis dans l'épreuve en plus, même en tant que chrétien, je participe à ce monde en souffrance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de cette souffrance. Pas que pour cela, mais c'est peut-être aussi une raison. Nous voulons aller vers un monde qui souffre, un monde qui a besoin de souffrir, parce que cette souffrance est là, parce que Dieu a besoin, c'est la seule chose que les gens écoutent. Hein. L'être humain pécheur n'est pas disposé à écouter un message d'évangélisation, repentez-vous, venez à Dieu, etc. Ah d'accord, oui, pourquoi pas. Il le fait pas, lui. Quelque part, il ne le fera qu'à travers le brisement qui arrive à le faire dire « Oui, j'avoue que je ne gère pas ma vie comme il faut. » C'est quand le fils prodigue est au fond du gouffre et qu'il ne gère plus, qu'il dit « Peut-être que mon père n'était pas si bête que ça après tout. » Mais ça coûte d'avouer ça. Oh, que ça coûte. Ça veut dire, c'est comme arracher des dents. C'est pire que d'arracher des dents. Et ça, vous connaissez, on voit ça dans l'évangélisation tout le temps. Hein. Pour que quelqu'un arrive, Seigneur, je reconnais que j'ai eu tort de vouloir vivre ma vie sans toi, et combien je te remercie de ce privilège de pouvoir revenir à toi. Ça, c'est dur, ça. On va vers un monde en souffrance. Or, si nous, chrétiens, Dieu nous épargnait toutes les souffrances qui existent dans ce monde, quelle serait la réaction du monde quand on va vers eux avec ce message? Ah, Dieu veut vous aider avec vos souffrances. Vous, vous ne connaissez rien de tout ça, hein, parce que vous ne souffrez pas. Et en plus, ils verraient qu'il y a toute une catégorie de personnes qui n'ont aucun problème. Oh là, les conversions, c'est un bon train. Hein? Ah bah, ouais, je me convertis pour plus avoir de problème. Alors, pour que nous puissions faire partie de ce monde, Dieu nous permet, nous aussi, de souffrir. Une quatrième chose que je constate dans la souffrance pour nous, dans la souffrance, moi, chrétien, converti, j'ai déjà appris que je veux marcher avec Dieu, mais enfin, j'ai quand même besoin. Alors, c'est que ça m'apprend la dépendance de Dieu. Ça m'apprend où j'en suis avec moi-même. Ça me fait participer à ce monde de souffrance. Je constate, en quatrième lieu, que la souffrance est un moyen de démontrer la compassion de Dieu. Combien j'ai apprécié dans différentes épreuves les frères et sœurs qui m'ont porté, qui m'ont aidé. Parfois, simplement en me disant, écoute, viens, je vais prier avec toi. Et parfois d'une façon très concrète. T'as un besoin? Attends, je sors le chéquier. Crac! Parfois, je suis même gêné. La souffrance est l'occasion par excellence pour nous de démontrer l'amour de Christ, les uns pour les autres, et tous envers ce monde en souffrance. Dieu nous permet cette souffrance. Non pour nous punir pour nos péchés, mais pour nous aider à aller plus loin dans la dépendance de lui. Pour nous aider à découvrir aussi qu'on n'est pas allé aussi loin dans la dépendance de lui qu'on le pense. Ce qui revient encore à ce qui a été dit ce matin. Dans la souffrance, on apprend davantage qui nous sommes et qui est Dieu. Et c'est de ça dont on a besoin. Bien sûr, le fait de savoir ce que Dieu fait à travers la souffrance ne va pas enlever la souffrance. C'est pas que l'épreuve sera tout à coup facile à cause de ça. Mais ça aide. Vous savez, ceux qui ont déjà fait l'atelier sur la relation d'aide, vous le savez, les autres vous allez apprendre. Je parle en relation d'aide du problème et du surproblème. Le problème, c'est ce qui m'arrive. Il m'arrive un problème. Tomber malade, par exemple, ça arrive. Il y a un accident, ça arrive. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, ça arrive. Ça, c'est un problème. Et puis moi, j'ai réagi face à ce problème. Parce que j'aime pas ce problème. Alors, j'ai réagi. Et je le gère souvent très mal. Et par la façon de gérer la chose, ma mauvaise façon de gérer la chose, j'ai créé d'autres problèmes. C'est ce que j'appelle le surproblème. C'est le problème inutile que je rajoute déjà à ce que j'ai par ma mauvaise façon de réagir à cela. Dieu veut m'apprendre à comprendre quelque part le sens de la souffrance. Non que la souffrance sera moindre, mais pour que je ne me révolte pas contre cette souffrance, en y rajoutant donc forcément un problème de plus. Parce que si en plus de vivre la difficulté, et parfois je suis étonné de voir jusqu'où le Seigneur se permet d'aller avec la souffrance. Des choses que moi je n'oserais jamais faire. Quand je vois dans les derniers chapitres du livre de Job, comment Dieu a parlé à un homme qui souffrait autant, jamais je ne me permettrai de parler comme ça à quelqu'un qui vit une épreuve aussi difficile. Oh Dieu! Oh là là! Il y va fort, mais c'est à qui l'affaire? Il connaît la trempe de l'homme qu'il a là. Parfois, je suis étonné de voir jusqu'où Dieu va dans la souffrance. Mais il le fait pour les bonnes raisons. Et si je peux savoir cela, je ne vais pas me révolter contre cette souffrance. Je ne vais pas le vivre facilement pour autant. Mais au moins, je ne vais pas rajouter la révolte contre cela. Parce que si je le fais, non seulement je suis dans la difficulté profonde, mais en plus, je me débat seul parce que je me suis éloigné de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné de moi, on est d'accord là-dessus. Mais je me suis éloigné de lui. Et je ne veux plus me laisser aider par lui. Et ça fait un problème d'y fois pire. Juste quand j'ai le plus besoin de son aide, je refuse son aide par ma révolte contre lui. Si je peux arriver à comprendre, au moins, que malgré tout, il y a des raisons pour ce qu'il fait, même si je ne les connais pas, je n'ai pas besoin de les connaître, hein, mais au moins de savoir qu'il y en a, je peux dire, d'accord Seigneur, je souffre, je suis mal, et je veux croire en toi. J'aime cette pensée de choisir de faire confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Il y a un texte célèbre dans le livre de Lamentations. Vous connaissez Lamentations 3. Et combien de fois on oublie le contexte de cette citation? Lamentations, c'était écrit peu de temps après la destruction de Jérusalem. Par un prophète qui pendant presque 50 ans avait déversé son cœur, avait servi Dieu fidèlement et qui a vu que malgré cela, la catastrophe est venue. La ville est en ruine. Les rues sont jonchées de cadavres. Son peuple est détruit. Et Jérémie souffre. Il souffre profondément. Et dans Lamentation, il ne se prive pas de le dire dans le début du chapitre. Il dit, j'aurais préféré ne pas naître que de vivre ça. En marchant dans les rues, combien de fois n'a-t-il pu donner un nom? Ah tiens, oula, encore et encore. Des femmes, des enfants, tout le monde. Et malgré ça, il dit, au verset 21 du chapitre 3, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » C'est pas simplement « Ah tiens, il m'est venu cette pensée-là. » C'est un choix. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. C'est dans ce contexte-là qu'il dit ça. Si on peut apprendre que le Seigneur a des raisons, même si on ne les comprend pas toujours, on peut arriver à dire, dans la souffrance, je vais au moins éviter de rajouter le surproblème qui consiste à me révolter contre Dieu juste au moment où j'ai le plus besoin de lui. Dieu dose la souffrance d'une façon extraordinaire. La Bible compare la souffrance à l'or éprouvé par le feu. Et c'est intéressant. Avant qu'on ait les techniques modernes, rien que par le feu, on arrivait à purifier l'or jusqu'à, je crois, entre 80 et 90% de pureté. C'est incroyable. Hein? Aujourd'hui, on arrive à des puretés de je ne sais pas combien, marqué sur les lingots d'or, à 99%, 0,99999, je ne sais plus exactement combien de neufs. Il faudrait peut-être que quand je rentre à la maison, je regarde un peu mon stock de lingots d'or pour voir combien de neufs il y a. Mais on arrive bien plus loin maintenant avec des techniques chimiques. Mais à l'époque, rien que par le feu, on arrivait à faire le tri. Mais vous savez que pour qu'un orfèvre purifie l'or par le feu, il faut chauffer jusqu'à un certain point et pas plus. S'il ne chauffe pas assez, il ne va pas arriver à enlever toutes les impuretés qu'il faut. Mais s'il chauffe trop, il va faire bouillir et il va détruire l'or qu'il est en train de purifier. Et Dieu est l'orfèvre parfait qui dose la souffrance comme ça. Ce qu'il nous faut et pas plus. Mais en disant que Dieu ne donne pas plus que ce qu'il nous faut, il nous donne quand même souvent plus que ce qu'on veut. Et si on peut arriver à comprendre le sens de la souffrance, Seigneur, tu fais ça pour des bonnes raisons, pour m'apprendre la dépendance de toi dont j'ai tant besoin, mais qui ne me vient pas naturellement parce que malgré toutes les années et tout ce que j'ai appris, il y a encore dans mon cœur parfois des choses que je ne comprends pas et je me méfie de toi. Donc, tu fais cela pour m'apprendre la dépendance de toi. Tu fais ça pour m'apprendre où j'en suis. Tu fais ça pour que je puisse participer à ce monde de souffrance. Et je ne saurais peut-être jamais qui a pu être touché par ma souffrance et ma façon de vivre cette souffrance. Moi, peut-être que je ne verrai que ma souffrance. Et ce ne sera peut-être que dans l'éternité que quelqu'un me dira, tu sais, je t'ai jamais rien dit. Tu ne me connaissais même pas, mais je t'ai vu vivre cette épreuve. Et je dis, si on peut affronter ça avec Jésus-Christ, eh bien moi aussi, je veux marcher avec Jésus. Et je dirais, ah tiens, tout à coup, peut-être que ça valait la peine. Or que je ne voyais pas. Et par la souffrance, ça me donne l'occasion, enfin par la souffrance générale, ça me donne l'occasion de manifester la compassion du Seigneur en venant en aide à ceux qui souffrent. Si je peux comprendre cela, je peux éviter de me décourager dans l'épreuve, même si je souffrerai toujours tout autant dans l'épreuve. Pour conclure, parce qu'il faut bien, c'est l'heure, je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais qui me semble il s'impose dans un tel sujet. 2 Corinthiens 4, alors c'est 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Même quand nous souffrons, le Seigneur a des raisons et des bonnes raisons pour ses souffrances. Si on peut se rappeler de cela, ça nous aidera déjà à mieux affronter l'épreuve. Merci.